Vous écoutez RTL.
Il est 15h bien sûr et vous êtes avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Vous, c'est à 16h que l'on vous retrouve effectivement pour un point sur l'actu.
À tout à l'heure
Marie. Maman et papa, maman et maman, papa et papa, maman et le beau papa, papa et la belle-mère, papa et beau papa, frère, sœur, demi-frère, sœur de cœur, mamie, papy, belle-mamie, beau tonton, quelle qu'elle soit, famille, je t'aime. C'est tout de suite sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'RTL vous aide à affronter ce ciel gris et bas. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'échange et de partage tous les jours en direct entre 15h et 16h sur la première radio de France. Et puis notre émission de vendredi, évidemment, vous la connaissez, mais nous nous demandions si les insectes allaient devenir l'alimentation du futur. Une émission à écouter en replay sur RTL.fr. Eh bien, cette émission a suscité bon nombre de réactions, des hauts, des ahs, des burks, mais ne vous a pas laissé indifférent. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puisqu'on parle de petites bêtes, avez-vous entendu parler de ces artistes bienveillants comme vous et moi qui, pour la protection des escargots, agrémentent leurs coquilles de jolis coups de peinture pour les rendre plus visibles? L'imagination va bon train, le résultat est original. C'est en plus pour la bonne cause, la protection de ces mollusques qui nous offrent un balai de couleurs plein de poésie dans les champs. On vous met en ce moment même les liens sur les réseaux sociaux à vos pinceaux. Surtout, choisissez bien votre peinture car elle peut être néfaste pour les animaux, mais en revanche, si vous la prenez bien et sans alcool, vous verrez que vous pourrez contribuer en plus à la protection des escargots. Mais pour l'heure, la famille sera toujours la base des sociétés, selon Balzac. Recomposée, monoparentale, homoparentale, pluriparentale, adoptante, la famille a aujourd'hui de multiples facettes à l'image de notre société, une société en constante évolution. Alors, quelle est la définition de la famille aujourd'hui, en 2016, est-elle toujours une valeur refuge? Va-t-elle encore évoluer? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les hommes à la veille de la journée des femmes. Bonjour Serge Fèze, soyez le bienvenu sur RTL.
Merci.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, auteur de cet ouvrage La fabrique de la famille, donc chez Kero Éditions. Serge Fèze, vous le précisez à la fin de votre ouvrage, la famille n'est pas en crise, elle est seulement en pleine fabrication.
Et oui, elle se refabrique, elle doit se repenser. La famille, ça n'est plus la famille de la manif pour tous, si je peux dire. Un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Celle qu'on a scandée comme ça pour rappeler les valeurs traditionnelles. C'est souvent un père et une mère, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses. La famille se transforme, mais je dirais qu'il ne suffit pas de la décrire selon sa forme. Vous avez parlé des familles homoparentales, des familles monoparentales, des familles recomposées, etc. Ça ne suffit pas d'abord parce que la famille change de forme, justement, elle peut passer d'un état à l'autre. Hein,
selon au cours de l'existence.
Au cours de son existence, elle se transforme. Donc j'ai voulu, dans mon livre, essayer de décrire ce que c'était que son essence, finalement, à cette famille. Qu'est-ce que c'était que sa structure? Comment est-ce qu'on pouvait la concevoir aujourd'hui, alors qu'elle échappe, justement, de plus en plus à sa forme traditionnelle?
Voilà, donc la famille que l'on fabrique, et en même temps, c'est vrai qu'on en parlait il y a un instant en antenne, c'est un sujet parfaitement d'actualité, puisque François Hollande a déclaré dernièrement que le ministère de la famille allait devenir le ministère des familles. Donc toujours évidemment dans le sens du mariage pour tous qui a été donc dernièrement adopté. À vos côtés, Nicole Prieur.
Bonjour
Nicole, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Vous êtes psychothérapeute. Alors vous, votre ouvrage, c'est la raison pour laquelle j'ai donné la parole juste avant à Serge Fèze, Les petits règlements de compte en famille, c'est chez Albin Michel. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicole, que finalement les conflits sont aussi multiples aujourd'hui dans les familles que justement elles offrent des visages différents? Est-ce qu'on appuie encore plus sur les conflits aujourd'hui que les familles sont nombreuses?
Oui, et puis j'ai envie de dire que les configurations justement sont de plus en plus complexes, donc elles génèrent de plus en plus d'adaptation, d'adéquation, de coordination au sein même des relations, et effectivement ça fait émerger des conflits. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que les conflits permettent justement de se faire entendre, d'entendre l'autre et essayer de les dépasser. C'est ça le but d'un conflit finalement.
Alors ça, c'est dans les histoires de toutes les familles. Est-ce que c'est toujours un refuge aujourd'hui, Serge Fèze, la famille?
Ça l'est de plus en plus, parce que le monde est devenu de plus en plus menaçant, parce que l'avenir est incertain, le travail est plus difficile, et puis on est de plus en plus branché en permanence sur tous les malheurs du monde. Donc effectivement, la famille, c'est le lieu où on va chercher plus de bonheur, on va chercher plus de détente, on va chercher plus d'affection. Parfois, au détriment de la réalité, c'est que la famille, ça n'est pas que de l'amour et du bonheur, c'est aussi, comme le disait Nicole Prieur, un certain nombre de conflits à régler. C'est l'amour et la haine qui sont sont mêlés. Et c'est vrai que cette volonté forcenée que la famille soit un refuge et le lieu du bonheur, eh bien, ça provoque parfois un certain nombre de contradictions.
Alors, je vais rebondir justement sur ce que vous disiez. Dans un instant, on va écouter Christelle, sa petite fille Maggie, que l'on connaît, nous, dans l'équipe, puisqu'un jour, Maggie est venue nous rendre visite dans nos studios. Un jour, dit, mais maman, le plus important, c'est l'amour. Maggie, elle a deux mamans qui s'appellent Christelle et Céline. Et justement, dans un instant, Christelle, on va vous donner la parole sur l'antenne d'RTL. Si vous souhaitez témoigner, vous composez le 3210. On vous écoutera, vous pourrez nous éclairer de votre expérience ou vous allez sur les réseaux sociaux et on récupérera vos messages et je m'en ferai l'écho. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
À quoi ressemble la famille selon vous? Quelle est-elle? Quelle est la vôtre? Est-ce que vous avez aussi évolué dans votre vision des choses ou même dans votre vie tout court? C'est vrai que, comme le disait l'un de nos invités, Serge Effèze, aujourd'hui aux côtés de Nicole Prieur. En fait, Serge, aujourd'hui, dans une existence, on peut connaître différents scénarios familiaux.
On peut connaître différents scénarios familiaux, ce qui fait que l'on peut se poser la question, et les enfants d'ailleurs se la posent beaucoup, c'est qui est ma famille et qui fait partie de ma famille? Est-ce que le nouveau conjoint de ma mère, j'accepte qu'il fasse partie de ma famille ou pas? Est-ce que l'enfant de ce nouveau conjoint avec qui je n'ai aucun lien de consanguinité mais avec qui je vais vivre au quotidien, est-ce que c'est mon frère ou pas mon frère? Donc il y a des liens qui ne sont plus des liens de consanguinité forcément, mais qui sont des liens électifs, qui sont des liens d'élection, qui sont des liens choisis, et qui fait qu'on choisit davantage sa famille qu'elle ne vous est imposée. C'est sans doute ça le grand changement de la famille aujourd'hui.
Donc c'est la liberté aussi de fabriquer sa famille sur laquelle justement vous insistez. Et Nicole Prieur, est-ce que vous avez le sentiment aussi que les enfants, on leur demande aujourd'hui une capacité d'adaptation à toutes ces histoires finalement de grandes personnes? Car on l'a compris, hein, Serge nous disait, quelque part on ressent la famille plutôt qu'on ne la définit sur le papier. On ressent la famille.
Oui, on la ressent.
Mais les enfants, est-ce qu'ils sont d'accord?
Les enfants ressentent. Je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation importante à partir du moment où les adultes sont cohérents. Et à partir du moment où, justement, les adultes passent d'une forme peut-être monoparentale à couple, couple, famille recomposée, etc., avec eux-mêmes souplesse, et que ça a du sens pour eux, hein, de laisser changement là, à partir du moment où ça a du sens pour les parents, les enfants arrivent à s'adapter. C'est vrai qu'en même temps, il ne faut pas imposer aux enfants trop de choses. Par exemple, le demi-frère, l'enfant de l'ex, etc. Il ne faut pas forcément lui imposer d'avoir les mêmes relations qu'avec son frère et qu'avec sa sœur. Il y a des façons d'être ensemble dans la famille ou dans la fratrie qui se différencient de plus en plus. Donc ça demande la tolérance.
Voilà. Et donc, les enfants, au même titre que les parents, les enfants ont le droit de choisir leur famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aimer à foison. On n'est pas obligé d'être dans la multiplicité, finalement, des relations, Serge Effèze.
Absolument, mais de toute façon, on sait bien qu'on n'est pas obligé de s'aimer dans une famille et que les sentiments
sont toujours
ambivalents dans la famille. Mais au fond, la famille, ça a toujours été le lieu des passions, toujours le lieu de l'amour et la haine. Il n'y a qu'à remonter à l'Antiquité et relire les auteurs antiques pour se rendre compte à quel point ces passions soufflent dans la famille même la plus traditionnelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est davantage amené tout de même à être dans ces choix électifs qui peuvent être un peu confusionnants pour l'enfant. C'est parfois un petit peu trop lui demander que de s'adapter à différentes personnes qu'il va rencontrer au cours de sa vie. Mais en même temps, ça lui demande à ce moment-là plus de souplesse.
Oui, mais ça ouvre l'esprit aussi.
Absolument, ça ouvre l'esprit parce qu'il va, par exemple, un enfant va être un grand frère dans une famille et un petit frère
dans une autre
de ses familles. Ouais. Donc, il explore différentes facettes de lui-même.
Allez, je vous présente Christelle qui est en ligne avec nous. Bonjour Christelle, comment ça va?
Bonjour Flavie, ça va et vous?
Ça va, voici la voix d'une jeune femme heureuse, Christelle. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes mariée à Céline, vous êtes l'une de nos fidèles auditrices, on vous retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Céline, que vous aimez hein, tellement, votre amour éclate d'ailleurs sur notre page Facebook régulièrement. Et puis vous êtes toutes les deux les mamans d'une petite Maggie qu'on a eu l'occasion de rencontrer à la millième d'On est fait pour s'entendre. Vous écoutiez justement les dires hein, aujourd'hui de Serge Effèze et de Nicole Prieur qui sont nos invités. Et quand on a proposé ce sujet, tout de suite vous avez rebondi en disant « moi je veux bien parler de la famille ». Parce que c'est vrai que votre famille, elle n'est pas majoritaire en France, mais ça reste une famille.
Tout à fait, oui. C'est une famille normale, je dirais, où il y a de l'amour et de la bienveillance. Donc, et des conflits aussi. Je rebondis sur ce que j'ai entendu tout à l'heure.
Oui.
Donc, comme dans toutes les familles, mais en priorité, de l'amour et de la bienveillance.
Voilà, c'est à ça que vous définissez la famille. Vous, Christelle, vous avez été élevée dans une famille dite traditionnelle?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai un papa, une maman. Famille traditionnelle, oui.
Vous avez des frères et sœurs?
Non, je suis fille unique.
D'accord, ok. Est-ce qu'avant de rencontrer Céline, vous envisagiez de fonder une famille dite traditionnelle, le papa, la maman, les enfants ?
Non, pas du tout, du tout. Je savais que, quand j'ai rencontré Céline, je savais que l'on aurait une famille, oui, mais pas traditionnelle, évidemment.
Alors, comment ça s'est passé, justement, avec Céline ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on tombe amoureuse d'une femme dans une société qui, à l'époque, parce que c'était il y a 13 ans, n'était peut-être pas aussi ouverte d'esprit qu'elle l'est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on se dit quand il s'agit de fonder une famille ?
Moi, je vais parler à titre personnel. Ça a toujours été une évidence pour moi. C'est-à-dire que je savais que j'allais rencontrer quelqu'un, une femme en l'occurrence, et que je fonderais ma famille de toute façon, qui serait comme ça, c'est-à-dire avec deux mamans et un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants. Ça a toujours été une évidence pour moi. Après, techniquement, effectivement, c'est un peu plus compliqué que dans un couple dit traditionnel. Mais ça a toujours été une évidence. Je savais qu'on aurait une maison, des chats, un enfant, et, malgré le fait qu'on soit un couple pas majoritaire, on va dire.
Donc, classique. En plus, famille, donc la maison, les chats, les enfants, vous écoutez RTL. Donc, pour l'instant, tout est absolument parfait. Christelle, vous ne bougez pas, on va poursuivre hein, évidemment notre conversation dans un instant sur l'antenne d'RTL en compagnie de Nicole Prieur et des Serge Effèze. Et vous allez nous parler de cette petite Maggie, nous dire si effectivement Maggie, quand elle va à l'école, elle a 6 ans maintenant, se compare à ses copains et se pose des questions justement sur ses origines. A tout de suite Christelle sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Aujourd'hui, on parle de la famille. Pardon, on va y arriver. Donc, moi, Flavie, j'ai envie de vous parler de la famille aujourd'hui avec nos invités, évidemment, qui sont Nicole Prieur et Serge Effèze, tous deux auteurs d'ouvrages très intéressants. Les petits règlements de compte en famille chez Albin Michel de Nicole Prieur et La fabrique de la famille de Serge Effèze que vous pouvez retrouver chez Kérou Éditions. Dans un instant, nous allons poursuivre notre conversation avec Christelle. Mais d'abord, juste une réaction de Mandarin qui écoutait le témoignage de Christelle. Car Christelle, elle aime Céline. Depuis 13 ans, elles se sont mariées et aujourd'hui, elles ont une petite fille qui s'appelle Maggie, qui a 6 ans, qui est très mignonne. Mandarin écrit « Deux femmes, un enfant, égale une famille normale, je reste dubitatif ». Et puis Clémentine de rétorquer « Merci de parler de nos familles homoparentales positivement. Elles sont belles, elles sont magnifiques, elles sont pleines d'amour. Je n'ai pas mis au monde mes enfants, pourtant je suis une mère aimante. La famille va au-delà des liens du sang. Mes parents sont ma force ». Serge Effèze, il y a un instant, Christelle nous expliquait que pour elle, cette histoire d'amour avec Céline et le fait de fonder une famille était déjà dans son esprit il y a 10 ans une évidence. Et vous vouliez réagir, ça n'a pas toujours été le cas.
Et oui, c'est une évidence aujourd'hui parce que ça existe dans la société, qu'on peut se la représenter, qu'on en voit des témoignages, qu'on entend des témoignages dans vos émissions, qu'on les voit à la télévision. Donc ça veut dire que les personnes homosexuelles peuvent se dire « Ah mais moi aussi je peux fonder une famille, moi aussi je peux avoir un enfant », ce qu'elles ne pouvaient absolument pas se représenter il y a 20 ans ou 25 ans. C'est pas qu'elles n'avaient pas un désir d'enfant, c'est que ce désir ne pouvait même pas se formuler puisque ça n'existait nulle part et que ça n'était pas montré. L'autre chose, c'est que la famille, ça n'est pas que de l'amour, ça n'est pas que le fait d'élever des enfants. La famille, protéger un enfant, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie aussi le protéger de par la loi. Ça signifie qu'il ait une filiation, ça signifie qu'il ait un état civil dans lequel il a des parents. Un père, une mère, ou deux pères, ou deux mères, peu importe, mais c'est cette filiation qui le protège. Or, il a été très important de modifier la loi, justement, autour du mariage pour tous, pour permettre à tous les enfants d'avoir une filiation et d'être protégés par cette filiation.
Cette petite Maggie, elle est née suite à une PMA en Belgique. C'est vous, Christelle, qui avez porté Maggie ?
Oui, tout à fait, oui.
Céline était bien évidemment à vos côtés. Alors, on sent que Maggie, c'est votre grand bonheur. Est-ce qu'elle se pose des questions, Maggie, aujourd'hui, sur ses origines ?
Elle a posé des questions très, très tôt. Elle est rentrée à l'école, elle avait 2 ans et demi. Et un jour, elle est rentrée de l'école. Et donc, on pensait avoir les questions de sa part vers l'âge de 6-7 ans. Et un jour, à 2 ans et demi, elle est rentrée de l'école. Elle m'a dit, ma copine m'a dit qu'un enfant, c'est 2 ventres, pas 1 ventre. Donc, j'ai entendu ça, je me suis dit, ok,
deux
va falloir lui expliquer, voilà. Donc, c'est 1 ventre, pas 2 ventres, pardon. Et donc, on lui a expliqué, avec ses propres mots, et avec les mots destinés aux enfants, on lui a expliqué, maintenant elle grandit, elle a d'autres questions, elle dit, bon ben voilà, mes copains de classe, ils ont tous un papa et une maman, est-ce que je suis toute seule ? Je dis non, il y a plein d'autres enfants comme toi qui ont deux mamans, simplement c'est vrai que nous, on n'en fréquente pas à titre personnel, toutes les familles qui nous entourent sont des familles hétéroparentales ou monoparentales. Donc, les mots sont simplement choisis. On lui a jamais caché d'où elle venait. Et donc, on lui a expliqué qu'effectivement, il y avait un généreux donateur qui nous avait aidé à ce qu'elle vienne dans notre famille et ce qu'elle vienne dans mon ventre, en fait.
Donc, elle sait comment on fait les bébés?
Oui, je suppose.
Non, mais elle sait l'histoire du. Non, mais on dit toujours, bah voilà, les bébés, c'est le papa et la maman qui font des bébés. Donc elle sait comment elle est arrivée. Elle sait comment on fait les bébés. Et en même temps, elle arrive à définir sa propre famille. Moi, Maggie, un jour, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, tu veux pas faire une photo avec mes deux mamans? Et c'était très clair dans sa tête. Il y avait quelque chose de très évident. Vous pensez que c'est parce que vous en parlez justement et que vous l'avez tenue informée de tout ça?
Oui, on lui a jamais rien caché et je pense que la plus belle récompense, entre guillemets, enfin c'est vraiment entre guillemets, c'est d'avoir entendu la maîtresse de Mehdi l'année dernière qui nous a dit, mais vous savez, le fait qu'elle ait deux mamans, elle en fait une richesse. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup touchée en fait, alors que j'ai pas, on n'a pas de mérite plus qu'une autre famille, mais ça m'a confortée dans l'idée que je ne me suis pas trompée en ayant voulu faire une famille un peu différente en fait. Voilà.
Oui. Nicole Prieur, oui. C'est vrai que les familles homoparentales sont des couples qui vraiment choisissent, ont terriblement envie de leur rôle de parent et mettent tout en œuvre pour l'avoir. Est-ce que ça change aussi? Est-ce que ça nous différencie des familles traditionnelles?
Oui, enfin, en tous les cas, ce que j'entends moi dans le cours de mes consultations, et ce que Christelle nous raconte, effectivement, confirme tout à fait. Il y a une élaboration d'abord de son rôle de mère, comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Il y a une réflexion vraiment mature, enfin très importante. Qu'est-ce qui est important pour notre enfant? On parlait de filiation tout à l'heure avec Serge Fès. Comment on va faire en sorte que notre enfant se sente affilié à notre famille qui n'est justement pas une famille traditionnelle? Donc il y a une réflexion, il y a une ouverture. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants que je rencontre qui sont élevés dans les familles homoparentales sont ouverts sur la société. Ce sont des enfants investis, pétillants, parce qu'on leur donne souvent, alors je ne veux pas faire un profil trop idéalisé, mais en même temps, il y a des ouvertures d'esprit extrêmement grandes.
Bah, l'idée de la tolérance,
mais c'est
à
ça,
la base.
Les enfants sont élevés dans la différence et dans l'acceptation de la différence. Ce qui peut être pénalisant pour eux, c'est le regard de la société. C'est là où il faut que les choses arrivent à changer finalement.
Très rapidement, Christelle, est-ce que Maggie a souffert justement de cette différence?
Non, pas du tout. Alors, c'est peut-être le cas dans d'autres familles, j'en sais rien. Mais chez nous, non, pas du tout. En tout cas, Mehdi, au jour le jour, est une enfant épanouie. Le peu de questions qu'elle est posée, on lui a répondu très simplement. C'est et elle est passée à autre chose tout de suite après. Mais des questions interrogatives, en fait. C'était pas une souffrance, c'était pas une question suite à une souffrance ou suite à un regard de ses amis. Au contraire, ses amis de classe sont très, très curieux et on n'est jamais mal vu, en fait.
Eh bien voilà, ça c'est une belle histoire de tolérance et de dialogue. Christelle, vous allez, je le sais, rester à notre écoute. Je me permets de vous embrasser. Vous embrasserez Céline et Maggie. Il faut que je vous quitte, mais je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, soyez heureuse.
Moi également. Continuez comme ça.
Salut,
en tout cas,
Christelle.
C'est une excellente émission.
Merci. Si, on vous embrasse.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Dans un instant, nous allons poursuivre, hein, évidemment, notre tableau aujourd'hui de toutes les familles, de tous les schémas, les scénarios familiaux que l'on peut trouver en France aujourd'hui avec nos invités. Ça n'est pas qu'une émission sur l'homoparentalité, mais nous avons, il y a un instant, donné la parole à Christelle et c'était effectivement bien aussi d'entendre son message, Serge Fès, justement par rapport à sa petite Maggie et par rapport à cette idée qu'aujourd'hui, les familles évoluent. Ce qu'on gagne là aujourd'hui en termes de... J'ai l'impression qu'on repousse, voyez, on agrandit, on élargit un peu le champ des possibles familiaux. C'est du gain aujourd'hui? C'est une évolution qu'il faut savoir accepter?
C'est un gain de liberté pour chacun. C'est un gain d'émancipation pour chacun, les hommes comme les femmes, de pouvoir davantage choisir leur destin que d'avoir un destin imposé. Au fond, la famille, le mariage, ça a toujours été quelque chose d'imposé. Aux femmes, bien plus qu'aux hommes, mais aux hommes aussi. On ne choisissait pas son conjoint et c'était le mariage indéfectible qui définissait la famille. Alors effectivement, les choses étaient bien cadrées, on n'avait pas beaucoup de choix personnels. Le destin vous était donné par votre père, par la patrie, par la nation, par Dieu, par qui on veut. Aujourd'hui, les individus sont libres. Et surtout, les hommes et les femmes sont devenus égaux. Et aussi égaux de par la loi, car ils exercent ensemble l'autorité parentale. Ça n'est plus la puissance paternelle que c'était autrefois. Et au fond, toutes les transformations de la famille viennent de cette égalité. Et cette égalité, dans le choix, on choisit son conjoint. Les femmes comme les hommes ont choisi de rester avec lui ou de ne plus rester avec lui, de se marier ou de se démarier, de faire des enfants dans le cadre du mariage ou hors cadre du mariage. Et tout ça, bien évidemment, transforme très profondément la famille et amène à des situations que je nomme situations de pluriparentalité ou de coparentalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un homme et une femme seulement, mais tout un tas d'autres protagonistes, parfois des protagonistes imaginaires, un donneur de gamètes, un donneur de sperme, un donneur d'ovocytes, parfois des parents qui ont abandonné l'enfant dans une contrée lointaine, et puis surtout des beaux-parents, des parentés additionnels. Comment donner une place à toutes ces personnes qui font qu'un enfant est venu au monde et qui font qu'un enfant existe, qui font qu'un enfant puisse interpeller tous les protagonistes de son histoire et lui donner une place dans son roman familial, dans son imaginaire.
Nicole Prieur.
Oui, je crois que ce que l'on n'a pas mesuré avec le premier bébé éprouvette, c'est qu'en fait, on était dans une véritable révolution. C'était la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité qu'on pouvait faire un enfant en dehors du lit parental, en dehors de la sexualité. À partir de ce moment-là, ça a ouvert effectivement des multiples façons de faire famille, de faire enfant, etc., de donner naissance à un enfant. Donc ça a ouvert. Mais par contre, cette liberté, et là où moi, en tant que philosophe, je trouve ça passionnant, cette liberté crée des exigences. C'est-à-dire que quelle que soit la structure familiale, que l'on soit élevé par une femme, par deux femmes, par trois femmes, par je ne sais quoi, de toute façon, par une belle-mère, par ceci, par cela, je pense que ça nous ramène, Serge Hefès parlait d'essence, ça nous ramène à l'essence même de la relation parentale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, en tant que mère ou en tant que père, pour que mon enfant se reconnaisse dans sa filiation, pour que j'assume ma responsabilité de parent, finalement. Et ça nous renvoie à la qualité de cette relation-là, quelle que soit la structure familiale.
Et l'idée de connaître, évidemment, ses origines et la filiation, comme vous le dites, Serge Hefès, un donneur de sperme n'est pas une paillette sur un coin de paillasse.
Et oui, bien sûr, c'est un individu qui est doué d'intention, qui fait l'effort de donner une partie de lui-même pour qu'un enfant vienne au monde. Et cet enfant va être très interpellé imaginairement sur qui est cet homme. Comment est-ce qu'il... Ce qui ne veut pas dire qu'il cherche un père, parce que le père, il l'a déjà. Mais ce qui veut dire qu'il a besoin de reconstituer le puzzle de ses origines et de savoir qu'il peut éventuellement interpeller cette personne grâce à qui il vient au monde. D'ailleurs, bien souvent, et l'exemple suédois le montre, on a levé l'anonymat des donneurs de gamètes, mais il y a très très peu d'enfants qui ont souhaité rencontrer leur géniteur biologique. Mais de savoir qu'on peut le faire, je pense que c'est une tranquillité de l'esprit.
Oui. On a eu un message de Michael. La famille est une chose trop précieuse pour la rater. Je vis seule avec mon fils suite au décès de mon épouse, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur format de famille pour un enfant. Rien ne vaut une famille avec ses deux parents. La famille monoparentale, on va en parler dans un instant, la famille recomposée qui évidemment arrive sur le tapis, car il y a de plus en plus de familles recomposées en France. N'hésitez pas, vous composez le 3210, vous tout simplement, et nous on sera au bout du fil sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci pour toutes vos réactions et puis merci pour vos tweets, à l'instar de Norman Cook. Alors Norman, quand on a reçu vos tweets, on a commencé à prendre un stylo, un papier, et on a essayé de composer la famille. Bonjour Flavie, ma petite sœur et moi, on est frères et sœurs côté maman et cousins, cousines côté papa. Donc pour l'instant, c'est un petit peu particulier, on a déjà mis du temps à comprendre. Et puis ensuite, Norman, vous nous avez laissé ce tweet. Ma maman a épousé donc trois maris, quatre enfants. C'est la deuxième maman pour les cinq enfants de son premier mari. Ça fait de la marmaille quand même, car ils ont gardé de bons contacts, une grande famille. Oui. On en a donc conclu, Serge Hefès.
Eh bien que...
dans
que,
ce petit jeu, cette petite devinette.
Que cet homme avait épousé deux sœurs successivement.
Non, cette femme avait épousé deux frères.
Que cette femme avait épousé
absolument
deux frères.
Bon, oui, d'accord. C'est ça.
Mais ce qui fait que les enfants peuvent être à la fois frères et sœurs et cousins-cousines. Mais ça a l'air très bizarre, mais vous savez, dans les pays méditerranéens, quand une femme décédait, eh bien, un homme, le mari était en joint d'épouser la sœur de cette femme.
Ça.
C'est comme ça que c'était une tradition. Et donc, les enfants se retrouvaient frères et sœurs et cousins. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on n'attend pas le décès de quelqu'un pour recomposer une famille. Il suffit de se séparer et de recomposer la famille avec quelqu'un d'autre de son choix. Ça, c'est la grande nouveauté d'aujourd'hui.
Est-ce que la famille est systématiquement liée au couple ?
Oui, non, oui et non.
Ah, si oui et non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que...
La famille, c'est soit un lien d'alliance, de mariage ou de Pax ou même de juste un lien d'alliance, soit un lien de filiation, soit les deux. Mais c'est soit la filiation, soit l'alliance qui va définir la famille sur le plan juridique.
Mais c'est un choix sur l'alliance. Oui, j'entends par là des familles recomposées. Alors il y a de plus en plus de familles recomposées. Un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée en France. Ces enfants-là, on leur impose finalement un couple, mais est-ce qu'on est obligé de leur imposer la famille pour autant ? C'est un choix qu'ils font de leur côté.
Alors, c'est un choix dans lequel les enfants sont de plus en plus amenés à se prononcer. Combien de fois j'entends une femme me dire « Mais moi, je ne pourrai jamais choisir un autre conjoint si il ne s'entend pas avec mes enfants ou s'il n'est pas adoubé par mes enfants », ce qui d'ailleurs fait reposer sur les enfants une sacrée responsabilité par rapport au bonheur de leur mère. Tout ça est un petit peu complexe. Alors, parfois, on essaye de passer en force, parfois, on essaye de passer en douceur. Mais l'expérience montre quand même que dans la plupart des cas, c'est les enfants qui compose la famille. C'est-à-dire, c'est le fait que les enfants, ils se reconnaissent, ils s'aiment, ils acceptent de cohabiter, ils créent leur lien de fraternité. C'est une façon de dire, c'est comme si la famille poussait à l'envers, au fond. Vous savez, avant, on disait, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Et bien, aujourd'hui, ils se rencontrent et ils ont beaucoup de parents.
Mais c'est vrai que ça vient, donc ça vient du sentiment. Ça ne vient pas de la définition de la famille, mais ça vient du sentiment. Dans une famille recomposée, les enfants peuvent se découvrir une sorte d'amour fraternel.
Pas seulement l'amour, pense que ça vient à partir d'un sentiment de reconnaissance. Je reconnais cette femme comme pouvant avoir une relation avec moi, donc je la reconnais, je la double effectivement comme une belle-mère, et donc ça y est, elle fait partie de ma famille, ou je ne la reconnais pas. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la loyauté à ce niveau-là. Est-ce qu'elle est légitime pour me faire à manger tous les jours? Est-ce qu'elle est légitime pour me dire comment je dois m'habiller, etc.? Et je pense qu'effectivement, à partir des enfants, la famille, aujourd'hui, c'est symboliquement se constitue. Et beaucoup moins à partir des couples en tant que tel. Hein.
Serge Fess.
Mais ce qui n'empêche pas que la protection juridique aussi est nécessaire et que le statut de tous ces beaux-parents aujourd'hui, il est en pourparler incessant pour savoir quelle place on va leur donner. Mais par exemple, un beau-père qui... Vous savez, il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui, la femme est enceinte ou le bébé est tout petit. Avez des beaux-pères qui s'occupent de cet enfant beaucoup plus que le père biologique. Eh bien, ces beaux-pères-là ne peuvent pas transmettre leur patrimoine à leurs beaux-enfants. Enfin, ils peuvent le faire, mais sans avoir évidemment tout ce que la loi permet entre un père et un enfant. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Il faut que la loi puisse suivre ces mutations de la famille. Pour l'instant, la loi recalque beaucoup trop le modèle traditionnel d'un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins.
Encore fallait-il poser tous les visages de la famille, et c'est ce que vous avez fait dans votre ouvrage aussi, Serge Fess, parce que ce qui peut nous paraître confus dans la notion de la famille aujourd'hui, finalement, vous l'avez réuni et les choses deviennent concrètes quand on a votre ouvrage entre les mains. C'était l'objectif.
C'est ça, c'est-à-dire que la famille est une et la famille est multiple en même temps, mais l'essence, la nature de la famille, ça reste des liens de filiation, ça reste que la famille est la cellule de reproduction des normes sociales, des valeurs de la société, qu'elle est là pour ça, elle n'est pas juste là pour qu'on s'aime et qu'on soit bien ensemble. Donc c'est une entité sociale qui est extrêmement importante et il faut comprendre la nature même de cette entité sociale.
Et les enfants, Nicole, justement, sentent très bien ce danger, parce que moi j'ai beaucoup d'enfants en consultation qui disent, et si maman et son compagnon se séparent, qu'est-ce qu'il adviendra de ce lien-là? J'ai envie de dire, cela pèse vraiment dans la psyché des enfants, dans leur sentiment de sécurité. C'est quelque chose qu'ils ressentent plus ou moins consciemment, et en tous les cas qui les pénalise quelque part.
Alors, la vision de la famille des enfants, on va en parler dans un instant, effectivement. Comment l'appréhendent-ils? Quelle sera leur vision aussi plus tard? Comment vivront-ils la famille? C'est tout de suite avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci pour votre tweet, 4LH. Votre émission fait du bien, c'est le reflet de la vraie vie et ça ouvre les esprits. Eh bien voilà, c'est la mission d'En effet pour s'entendre. Et nous aussi, on s'ouvre les esprits un petit peu plus à chaque fois que l'on peut profiter et être éclairé par vos différents témoignages. On essaie de décrypter la société telle qu'elle est aujourd'hui, toujours avec un regard bienveillant. Cricrites nous écrit « Ma famille, c'est ma fille, c'est ma bataille » sur Facebook. Les familles monoparentales, Serge Fess. Moi, j'ai l'impression que c'est une aventure difficile et douloureuse. Et est-ce qu'effectivement, on peut considérer qu'on est une famille lorsque l'on est juste un parent et un enfant?
Tout dépend de ce parent et tout dépend des liens que ce parent a avec, avec le monde. Jusqu'à quel... Alors, quand on dit un parent, il faut être honnête, dans 95% des cas, c'est une femme, c'est une maman qui se retrouve seule avec un enfant, parfois sans même l'avoir choisi, avec tout ce qui peut être lié aussi à une séparation difficile. Donc, la situation est difficile si cette maman est vraiment seule, c'est-à-dire si elle n'a pas quelque chose à quoi se relier, que ce soit dans sa propre famille, chez ses propres parents, chez ses amis, dans son travail, dans ses amitiés, dans ses liens d'amitié, et qui font qu'elle va se sentir dans un huis clos avec l'enfant, et dans un huis clos où seule existe cette relation avec l'enfant. Parce que toute relation a besoin d'être triangulée, c'est-à-dire qu'on a besoin de sortir psychiquement, émotionnellement de la relation pour se relier à autre chose et pour faire en sorte que l'autre protagoniste, en l'occurrence l'enfant, soit lui-même relié à d'autres relations. L'enfant, il a besoin d'être lié à sa mère, mais d'observer sa mère dans un lien avec quelqu'un d'autre. S'il y a un huis clos qui est trop fort, c'est une relation qu'on appelle fusionnelle. Les besoins de la maman sont projetés dans l'enfant, l'enfant projette ses besoins dans sa maman et c'est inextricable. Et c'est souvent à l'adolescence que là ça devient explosif, puisqu'il y a besoin de se séparer à ce moment-là, et que là on ne peut difficilement se séparer autrement que dans la violence d'un lien fusionnel.
Alors ce sont des histoires de grandes personnes quand même, Nicole Prieur, toutes ces histoires d'amour, de parents, même si on expliquait que la notion de la famille nous vient des enfants et de la reconnaissance de l'autre, disiez-vous. Ces enfants, quelle vision de la famille ont-ils, ceux qui viennent vous consulter aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que j'entends de moins en moins ce désir de se projeter plus tard dans une famille. J'entends de moins en moi, les petites filles, avoir envie de dire plus tard, bon, on entend...
J'aurais 10 enfants.
Voilà, j'aurais... Alors, princesse, ça dure encore jusqu'à 4-5 ans, ça s'éteint vite.
Et il y a de la désillusion, en fait.
Il y a de la désillusion, et j'entends depuis 2-3 ans quelque chose qui m'a surprise la première fois que je l'ai entendu de la part d'une petite fille de... Elle avait peut-être à peine 5-6 ans, qui me dit, elle dessinait quelque chose, elle dessinait peut-être des enfants, etc. Elle s'arrête tout d'un coup, au milieu de son dessin, et elle me dit sérieusement, tu sais, plus tard, je ne veux pas avoir d'enfants.
Pourquoi ?
Je ne veux pas avoir d'enfants. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'un enfant, c'est trop compliqué. Ça pose des problèmes. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils retiennent que les enfants, c'est un poids pour la famille, pour les parents, qu'on soit seul ou pas seul, que c'est compliqué, que c'est difficile à gérer. Les enfants sont la caisse de résonance aujourd'hui, finalement, de toutes les difficultés des parents. Et il y a presque un désenchantement ou une culpabilité à être là, quelque part.
Comment faire, justement, Serge Fers, pour les protéger de ces désillusions et puis qu'on devienne grands-parents, peut-être un jour, quoi.
Oui.
Quelle qu'ait été notre vie.
Pas
trop tôt non plus.
Nicole Prieur nous parle de la bouteille à moitié vide. Je vais parler de la bouteille à moitié pleine. Du coup, c'est vrai que la famille, elle est quand même très investie par les enfants, dans la plupart des cas. Il y a des grands-parents, beaucoup, qui sont très présents, qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui parce qu'ils sont plus jeunes. Il y a des cousins, des cousines. C'est-à-dire que tout de même, même lorsque la famille échappe à cette forme traditionnelle d'un père, une mère, même lorsqu'elle est monoparentale, même lorsque les enfants sont adoptés, etc., il y a des liens très forts et très investis parce que, comme on le disait en début d'émission, la famille, c'est tout de même le lieu où on a envie d'être bien. C'est le lieu qu'on investit très fortement aujourd'hui. C'est le lieu où on a envie de transmettre du bonheur à ses enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais c'est quand même ça que tous les parents ont en tête aujourd'hui. Et donc, parfois, il y a des difficultés, il y a des séparations, il y a des crises. C'est peut-être à ce moment-là, d'ailleurs, que les enfants vont dire « Oh ben voilà, plus tard, je me demande si je veux faire des enfants. » Mais après, les choses se rétablissent et tout de même, il me semble que majoritairement, la famille reste très investie.
Oui, Nicole. Ce qui est important, c'est effectivement la famille, ce n'est pas seulement le papa, la maman, les deux mamans, les deux papas. C'est effectivement, je veux dire, l'histoire familiale. C'est aussi tout un réseau autour, toute une symbolique, tout un passé qui est là, un système qui transmet aussi ses valeurs, qui transmet sa représentation du monde. La famille, ce ne sont pas que des personnes, les personnes parentales autour, les figures parentales autour de l'enfant. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et beaucoup plus symbolique aussi, finalement.
Serge Fès, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est que la famille est là pour protéger, puisque vous me le donnez, je le prends,
que
la famille est là pour protéger les enfants et que les enfants ont besoin de protection et que la protection, encore une fois, ça n'est pas que de l'amour et du bonheur, c'est très important, ça n'est pas que d'être aimé, mais c'est d'être faire partie d'une institution qui est l'institution familiale, où les liens sont institués et institués de par la loi. C'est pour cela qu'il faut absolument que notre réflexion avance aujourd'hui sur cette institution familiale, que ça suive les transformations de la société.
Nicole, vous êtes d'accord ?
Oui, et ce que je pourrais rajouter si j'ai le temps, c'est qu'effectivement, ce qui me semble important quand on est parent, quelle que soit la structure familiale, c'est de reconnaître son enfant dans sa singularité. Et c'est un être unique, et plus on le reconnaît comme être unique, plus, quelle que soit la situation familiale, il arrivera à s'accomplir et à s'épanouir. J'y crois.
On se retrouve dans un instant. Je vais vous donner le nom des ouvrages de nos invités. Je vais vous parler du programme de demain, un peu original pour une journée de la femme. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bon, Nicole Prieur, c'est un plaisir à chaque fois renouvelé de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Je rappelle votre livre, Les petits règlements de compte en famille. Vous le trouverez chez Albin Michel. Serge Effèze, merci également de nous avoir éclairés aujourd'hui.
J'étais ravie d'être
bravo
là
pour cet
vous.
Ouvrage, donc, La fabrique de la famille chez Kero Éditions. Et puis il y a également Dans le cœur des hommes, c'est la dernière fois qu'on vous avait reçu, que l'on retrouve sur le livre de poche. Et pourquoi je vous parle de cet ouvrage, Serge ? Parce que justement, demain.
Moi, si j'étais une âme.
Demain, en la journée de la femme, et parce qu'on aime rien faire comme les autres, et même si nous restons extrêmement sensibles à la cause des femmes en France et dans le monde, eh bien nous allons nous intéresser à vous les hommes. Qui sont-ils vraiment ? Qu'ont-ils dans la tête et ailleurs ? Les confidences du pénis, ce sera demain à 15h sur RTL en direct. Et puis rien à voir avec le sujet de demain. Ce soir, vous pourrez retrouver dans La curiosité est un vilain défaut entre 20h et 22h si Denis Bonnec et Thomas Huc pour la question « Les Françaises sont-elles plus heureuses que leurs voisines européennes ?» Ça n'a rien à voir avec les hommes, hein. Pas du tout. Allez, on se retrouve donc demain à 15h, bien sûr, avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.